France Inter.
Heures lors de votre journal, Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. La campagne pour les élections européennes, Marine Le Pen accueillie en fanfare ce matin à Mayotte. Objectif lors de ce déplacement de la présidente des députés RN à l'Assemblée, dénoncer l'immigration clandestine et l'insécurité. Nous serons à Mayotte dans un instant. Plusieurs opérations non urgentes reportées à l'hôpital de Metz en raison d'un accident de stérilisation du matériel médical. Une cellule de crise a été mise en place pour permettre d'assurer les urgences et les soins du quotidien. Dans ce journal également, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Istanbul. Il rencontre en ce moment le président turc Erdogan. Et puis en France, la chorégraphe Blanca Lee, choisie à la tête de la Villette. Notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Rencontre avec Hélène Boiron pour l'opération Coiffure du cœur dans le cadre des salons de rue.
Dans un salon de rue, c'est du cœur à cœur. Les personnes ont tout perdu, elles n'ont plus rien à perdre et elles peuvent tout dire, et nous aussi. Il n'y a plus de masque. C'est une grande richesse.
Après ce journal, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, projet qui a suscité de nombreuses protestations. Mais qui a œuvré en coulisses pour qu'il se fasse? Qui va l'exploiter? Et qui a-t-il dans le contrat de concession? C'est donc ce qu'on va vous raconter.
La météo, ce n'est pas encore le moment de ranger son manteau, Camille Esnault.
Et non, les températures sont en nette baisse cet après-midi avec une perturbation qui s'installe à l'est et du soleil sur la partie ouest.
Prévision complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Dans l'actualité de ce samedi, les élections européennes à 7 semaines du scrutin et ce week-end, l'outre-mer est un passage presque obligé pour les têtes d'affiche de la campagne. Raphaël Glucksmann pour le Parti Socialiste Place Publique poursuit son déplacement à La Réunion. Marine Le Pen est arrivée à Mayotte en pleine opération Place Nette visant à interpeller les chefs de gang et à expulser les sans-papiers pour la plupart comoriens. Mayotte est le département où Marine Le Pen recueille ses meilleurs scores au niveau national. Et cela s'est vu, Audrey Tison, dès son arrivée ce matin.
Oui, c'est un accueil très festif que lui réservent les Mahorais. Des femmes qui chantent et viennent faire la bise à Marine Le Pen. Cette dernière se retrouve bien vite avec un collier et une couronne de fleurs, ainsi qu'un salouva, un tissu coloré porté au-dessus des vêtements. Les militantes sont ravies.
C'est un cri du cœur des Mahorais. Le fait qu'elles viennent déjà nous voir, ça nous fait chaud au cœur par rapport à tout ce qui se passe sur l'île. Elle a compris les doléances des Mahorais. Forcément, elle sort du lot.
Tu es chez toi, Marine. On te veut à l'Elysée, lance un autre militant au micro. Il le tend à Marine Le Pen. Cette dernière en profite pour dire sa solidarité avec les Mahorais et pour tacler l'opération Place Nette que vient de lancer le gouvernement.
Notre gouvernement, celui-là, celui qui l'a précédé, celui qui l'a encore précédé, sont incapables de faire preuve d'autorité. Ils gagnent du temps par des annonces de communication. Et votre situation à vous, elle continue de se dégrader. Alors arrêtons avec les opérations de communication. Il faut des décisions fermes.
Et notamment tordre le cou aux Comores en coupant toutes les aides à ce pays que Marine Le Pen accuse d'encourager les traversées illégales en direction de Mayotte.
Audrey Tison, par ailleurs, Marine Le Pen s'est dite fâchée contre son allié allemand au Parlement européen, l'AFD, qui ferait mieux de s'occuper des problèmes de l'Allemagne au lieu de questionner l'appartenance de l'archipel à la France. Cette semaine, l'AFD a appelé le gouvernement fédéral à prendre position sur les résolutions des Nations Unies selon lesquelles la France doit restituer l'archipel de Mayotte à l'Union des Comores. Je vais leur expliquer les raisons pour lesquelles les Mahorais ont par trois fois exprimé leur souhait d'être français, a précisé Marine Le Pen. L'activité de l'hôpital de Metz en Moselle sera perturbée pendant plusieurs jours et plusieurs opérations programmées ont dû être reportées. Un accident de stérilisation du matériel du centre hospitalier est à l'origine de la situation. Une contamination qui bloque la chaîne de stérilisation, Alain Gastal.
C'est vendredi que le centre hospitalier régional de Metz, qui regroupe les établissements de la ville ainsi que ceux de Thionville, a dû interrompre une partie de ses activités après la découverte de lots de sels adoucisseurs non conformes. Ces sels sont utilisés notamment dans la stérilisation des instruments. L'hôpital, dans un communiqué, explique avoir aussitôt déclenché une solution de repli qui consiste à faire stériliser ces instruments dans un autre établissement, en l'occurrence le groupe Uneos, anciennement hôpital privé de Metz. Une solution qui permet permet de maintenir les opérations d'urgence aujourd'hui ainsi que dans les jours qui viennent. L'ensemble des activités devrait redevenir normal à compter de mercredi, conclut l'hôpital, qui ne précise pas toutefois si des opérations ont été effectuées avec du matériel non conforme et si des malades en ont été affectés.
À Toulouse, un imam algérien condamné pour antisémitisme expulsé, Mohamed Tataït, est arrivé en Algérie hier soir après avoir été interpellé à son domicile par la police aux frontières. Dans un message posté sur le réseau social X, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a fait savoir qu'une nouvelle fois, la loi immigration avait permis, selon lui, d'expulser dans son pays d'origine en moins de 24 heures un imam de Toulouse, prêcheur de haine et condamné par la justice. Mohamed Tataït était arrivé en France en 1985. Une audience pour examiner une requête en référé des avocats de l'imam à l'encontre de cet arrêté d'expulsion est prévue lundi au tribunal administratif de Paris. L'actualité à l'étranger, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, est en Turquie aujourd'hui à Istanbul. Il rencontre en ce moment le président Recep Tayyip Erdogan. La dernière fois que les deux hommes s'étaient vus, c'était en juillet dernier, 3 mois avant l'attaque terroriste du Hamas contre Israël et le déclenchement de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Cette rencontre Haniyeh-Erdogan intervient alors que le Qatar, l'un des principaux médiateurs, a reconnu que les négociations entre le Hamas et Israël piétinée, la Turquie, à son niveau, tente de jouer un rôle. Et à Istanbul, Anne Andlauer.
Dans les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, la Turquie n'est pas un acteur majeur comme le sont le Qatar ou l'Égypte. Son soutien sans faille au Hamas l'empêche de prétendre à un rôle de médiateur. Mais sa proximité avec le groupe palestinien est aussi ce qui la met en bonne place pour porter des messages et aider à débloquer les négociations au moment où celles-ci piétinent. Ces derniers mois, la Turquie semble particulièrement impliquée dans les discussions sur les otages israéliens à Gaza et leur échange contre des prisonniers palestiniens. Le Hamas aurait suggéré qu'Ankara joue un rôle de garant d'un accord sur ce point. Ce qui est sûr, c'est que la diplomatie turque s'active. Les échanges se multiplient ces derniers jours avec les États-Unis, le Qatar ou encore l'Égypte, dont le ministre des Affaires étrangères est d'ailleurs attendu en Turquie ce samedi. L'objectif du président Erdogan est triple: contribuer à un cessez-le-feu avant que le conflit ne s'étende, éviter que le sort des Gazaouis ne passe au second plan derrière les tensions entre Israël et l'Iran, et répondre aux critiques au sein de son opinion publique qui lui reproche de ne pas en faire assez pour les Palestiniens de Gaza. Un enveloppeur Istanbul, RFI au France Inter.
Une explosion sur une base militaire cette nuit en Irak a fait 1 mort et 8 blessés. Selon les forces de sécurité irakiennes, aucun drone ou avion de combat n'a été recensé dans les airs au moment de l'explosion. Et puis en Ukraine, le correspondant d'un journal russe, du journal russe Izvestia, a été tué dans la région de Zaporijja dans une attaque de drone. Le journaliste Semyon Eremin, 42 ans, et son équipe de tournage revenaient d'un reportage sur la ligne de front. Aux États-Unis, vote très attendu aujourd'hui du Congrès américain sur l'Ukraine et Israël notamment. La Chambre américaine des représentants va se prononcer sur un grand plan d'aide pour l'Ukraine, Israël, mais également Taïwan. Une très importante enveloppe de 95 milliards de dollars réclamée depuis des mois par le président Joe Biden. Aux États-Unis toujours, mais dans un registre totalement différent, New York devrait devenir en juin la toute première ville à se doter d'un péage urbain, destiné en particulier à réduire embouteillage et pollution dans le sud de Manhattan. Le dispositif, s'il n'est pas bloqué par la justice, prévoit d'imposer aux automobilistes une taxe de $15 à l'entrée d'une partie de la ville, une mesure discutée depuis des décennies et qui divise les habitants de la métropole. À New York, Loïc Loury.
Molly sort de son immeuble dans le Financial District, accueillie par un concert de klaxons. Elle se réjouit de ce futur péage urbain. C'est super pour la ville. D'autres dans le monde l'ont déjà fait et ça marche. Écoutez ce vacarme. Alors ceux qui conduisent depuis le New Jersey, qu'ils aillent se faire voir. $15 en journée à l'entrée de toute la partie de Manhattan située au sud de Central Park. De quoi décourager, selon la ville, la venue de 150 000 véhicules par jour. Celui de Mirac, notamment un ouvrier du Queens. La ville, tout simplement, vole de l'argent aux gens comme moi. Je vis dans le Queens, je suis un New-Yorkais et malgré tout, je vais devoir payer. Ce n'est pas juste du tout. Colère partagée par les chauffeurs de taxi ou les habitants du New Jersey voisin, ce péage profitera pourtant à tout le monde. C'est ce qu'affirme Alexa Sledge de l'organisation Transportation Alternatives. Il y aura moins de trafic et donc vous pourrez aller plus vite au travail. Le coût du péage sera amortissé.
amortis. Moins de circulation, c'est bon pour l'économie parce que les bouchons ici nous coûtent près de 20 milliards par an. Quant à la manne dégagée par ce péage, 1 milliard de dollars par an, elle permettra de rafistoler les transports publics. New York, Loïc Loury, France Inter.
La fête de la bière à Munich, décrétée zone sans cannabis, moins de 3 semaines après la légalisation du cannabis en Allemagne. Et alors que ce 20 avril est décrété journée internationale du cannabis, la Bavière a donc décidé d'en restreindre la consommation. La région du sud de l'Allemagne souhaite limiter autant que possible la consommation dans l'espace public afin de protéger la santé des enfants. Le 1er avril dernier, l'Allemagne est devenue le plus grand pays de l'Union européenne à légaliser le cannabis. À Berlin, les précisions de Sébastien Baer.
Sitôt la loi entrée en vigueur, le gouvernement de Bavière avait commencé à plancher sur la façon de la restreindre. Car c'est peu dire que la légalisation du cannabis déplaît fortement au ministre-président de la région, le très conservateur Markus Söder. Plusieurs interdictions ont donc été décrétées aux terrasses des restaurants et cafés, dans certains parcs et jardins et lors des fêtes populaires. L'Oktoberfest, la célèbre fête de la bière de Munich qui réunit chaque année au début de l'automne 5 à 6 millions de visiteurs, sera donc une zone sans cannabis car drogue et fête familiale ne font pas bon ménage, selon l'organisateur. Le gouvernement bavarois profite ainsi du fédéralisme allemand qui offre aux régions une certaine liberté dans l'application de la loi. Pourquoi ces interdictions ? Pour mieux protéger les enfants et les jeunes, répond le président de région, qui a aussi prévu une amende de 1 000 euros pour quiconque serait surpris avec un joint en présence d'un mineur. D'autres régions, comme la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Hesse, pourraient emboîter le pas à la Bavière et décréter à leur tour des interdictions. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
La chorégraphe franco-espagnole Blancali, choisie pour devenir présidente de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette, fidèle aux grands marqueurs qui font la renommée artistique et le succès populaire de la Villette, la chorégraphe, danseuse, réalisatrice et comédienne âgée de 60 ans a l'ambition d'ouvrir davantage la programmation à la création numérique, à la mode, ainsi qu'aux arts urbains, indique le ministère de la Culture. Son projet, conforter la place de la jeunesse et des populations les plus éloignées de la culture, Stéphane.
Elle aime autant le tapis rouge du Festival de Cannes que les dorures du Palais Garnier. Blancali est une artiste multiple, à la fois chorégraphe, danseuse, réalisatrice de films, metteuse en scène, une artiste people aussi. Elle a travaillé avec Pedro Almodovar, Beyoncé, Blur, Paul McCartney ou Jean-Paul Gaultier. D'ailleurs, elle souhaite faire entrer la mode à la Villette. Elle a l'ambition aussi de l'ouvrir davantage à la création numérique et au hip-hop, déjà très présent dans la programmation. Son projet prévoit de grands événements populaires au bénéfice des populations les plus éloignées de la culture, qui connaissent le lieu mais qui n'ont peut-être pas accès aux salles de spectacle. Et il y a de quoi faire sur les 35 hectares avec sa grande halle, son espace consacré au cirque, en passant par les Folies, ses 26 bâtiments rouges qui jalonnent le parc. La Villette est aussi présente sur tout le territoire français à travers ses micro-folies, ses espaces modulables qui présentent les œuvres des plus grands musées nationaux. Blancali souhaite développer leur implantation.
La 60e Biennale d'art contemporain s'ouvre aujourd'hui à Venise. 87 pays sont représentés, avec pour la première fois le Bénin, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Timor oriental. Le pavillon français a été confié à l'artiste qui a grandi en Martinique, Julien Creuset, et dans un festival qui nous fait traverser le monde entier, Julien Creuset nous immerge dans un univers qui rappelle les Caraïbes. À Venise, Bruno Duvic.
Dès l'entrée, nous voyageons par les eaux. La première image évoque la fontaine des quatre parties du monde à Paris. L'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. À l'intérieur du pavillon, d'autres écrans nous plongent carrément sous les mers. Où sommes-nous ? Réponse ironique de Julien Creuset.
On est à Venise, dans le pavillon français. On est près des eaux. Venise peut être associée à l'idée d'archipel. Peut-être que par les eaux, on pourrait se relier à d'autres continents. Peut-être qu'on arriverait jusque dans la Caraïbe et on arriverait en Martinique.
L'immersion est également sonore. L'artiste chante en français, latin, créole. Ce qui rappelle encore la Martinique, c'est la forêt dans laquelle on évolue dans les différentes salles. Des lianes tombent du plafond, mélange de textiles et de matières synthétiques dans des tons très vifs, orange en particulier, comme un colorant alimentaire.
C'est une graine qu'on appelle le roucou. C'est le orange de la mimolette, du livaro, du pont-l'évêque, et ça me fait voyager. On l'oublie souvent dans les produits du terroir, et c'est une graine des Caraïbes.
Les Caraïbes, au cœur de l'art français à Venise, c'est à l'image d'une biennale qui fait la part belle aux peuples et régions souvent oubliées dans l'histoire de l'art.
Le sport, ce samedi, avec la 30e journée de Ligue 1 de football. Deux matchs aujourd'hui, Nantes-Rennes à 17h et ce soir, Lens reçoit Clermont. Le top 14 de rugby également, avec à l'affiche La Rochelle qui se rend à Castres. Et puis ce soir, Toulon accueille Toulouse. L'actualité sportive, c'est aussi les phases finales du championnat NBA de basket qui débute ce week-end aux États-Unis sans Victor Wembanyama. Son équipe, les Spurs de San Antonio, ne s'est pas qualifiée. Deux cadres de l'équipe de France vont en revanche y participer, Nicolas Batum et Rudy Gobert, deux joueurs qui ont réussi une très belle saison régulière, Vincent Pellegrini.
Au mois d'octobre, Nicolas Batum a quitté les Clippers de Los Angeles, où son temps de jeu s'était beaucoup réduit la saison dernière, pour rejoindre les Sixers de Philadelphie. Sa régularité, sa capacité à bien faire jouer ses partenaires, ses qualités de créateur, ont fait du capitaine des Bleus l'un des éléments majeurs des Sixers. Une formation qui peut de nouveau compter sur sa star, le pivot Joel Embiid, de retour de blessure. Philadelphie débutera ses phases finales la nuit prochaine face aux New York Knicks. De son côté, Rudy Gobert a de nouveau été cette saison l'un des joueurs dominants de Minnesota. Le pivot de 2,16 m est le deuxième meilleur preneur de rebond de toute la NBA. Son équipe a joué les premiers rôles dans une conférence ouest très relevée et elle fait partie des candidats sérieux au titre. Minnesota débutera ses playoffs ce soir face aux Suns de Phoenix.
Notre rendez-vous du samedi 13h avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin, avec un coup de chapeau à une coiffeuse de la Seine-sur-Mer dans le Var. Après 25 ans dans un salon, Hélène Boiron a tout quitté pour fonder un réseau unique en France, Coiffure du Cœur. L'idée est d'installer des salons éphémères en plein air le soir dans les centres-villes et trouver des coiffeurs bénévoles pour offrir des coupes aux plus fragiles, sans-abri ou familles démunies. Premier salon à Toulon en 2019, il y en a aujourd'hui 14. Présentation de cette coiffeuse au grand cœur.
Elle est toujours blonde, elle a toujours les cheveux mi-longs, le regard pétillant, mais Hélène n'est plus vraiment Hélène.
Qu'est-ce que j'aimerais pas revenir à l'Hélène d'avant. Betty Boop, voilà, j'étais ça un petit peu, tu vois, j'aimais tout ce qui brillait, tout ce qui pouvait paraître, les petits talons aiguilles, j'aimais plaire.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Un jour, j'ai eu l'épreuve de la santé.
Une maladie?
Oui, un cancer. Et donc, moi qui adorais la vie, j'avais très peur de mourir. Et à ce moment-là, j'ai fait une rencontre incroyable. Voilà, il y en a qui vont dire c'est n'importe quoi, je sais pas. Pour moi, c'est Dieu. Ça a permis justement de prendre conscience que, en fin de compte, là, je me trompais de voie.
Virage à 180 degrés, Hélène garde peigne et ciseaux, mais décide de tout plaquer pour se voir différemment dans son miroir.
Être utile pour les autres et pas toujours être centré sur moi, pouvoir apporter ce que je savais faire. Moi, je disais à mes copines, je sais coiffer, donc si vous me suivez, on part dans la rue gratuitement, bénévolement.
C'est quoi ces larmes?
Peut-être parce que ces personnes qui ont tout perdu, je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus fort qui passe. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas la coiffure c'est un support. C'est ces liens, ces relations avec les gens. Ils se rendent même pas compte que tout ce qu'ils peuvent m'apporter. Moi, je suis vraie, je suis là pour eux, je suis à ma place. C'est là le sens de ma vie. C'est dans la rue, c'est avec eux.
Un synonyme de coiffure du cœur.
L'amour.
Exemple, et il y en a tant d'autres.
Ça s'est passé à Tarbes. Je coiffe un monsieur, c'était un gitan. Il était vraiment typé. Puis je lui dis franchement, qu'est-ce que vous êtes beau. Puis alors, votre blouson est magnifique. Il y avait un lion, il y avait des fleurs, il y avait marqué amour. J'ai dit, il est top, votre blouson. Il se lève, il défait le blouson, puis il me dit, c'est pour toi. Oh, je dis, non, mais attends, non, mais ça me gêne. Il me dit, non, non, tu le prends. C'est quelqu'un qui a rien et qui m'offrisse le peu qu'il avait parce qu'il sentait que ça pouvait me faire plaisir. Et ça, c'est énorme. Dans un salon de rue, c'est du cœur à cœur. Les personnes ont tout perdu, elles n'ont plus rien à perdre, et elles peuvent tout dire, et nous aussi. Il n'y a plus de masque. Alors que dans un salon, en ville, on va peut-être faire un petit peu plus attention à ce qu'on va dire. Dans la rue, il n'y a pas de retenue. Quand je vois les bananes sur les visages des gens, que ce soit les amis de la rue ou que ce soit les coiffeurs qu'on a dans chaque antenne, et ben là, je me dis, ok, on continue.
14 villes, c'est dingue.
Oui.
Aujourd'hui, Hélène, vous avez besoin de quoi?
Que d'autres coiffeurs aient envie de nous rejoindre ou fassent la même chose. Au contact de la grande pauvreté, ça nous permet de nous appauvrir nous-mêmes de tout ce qui est du superflu qu'on n'a pas besoin. Et ça, c'est énorme. C'est une grande richesse. Voilà. Il n'y a pas de prix là pour ça. Il n'y a pas de prix.
Hélène Boiron, coiffure du cœur dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Camille Esnou.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Les températures en baisse cet après-midi.
Eh oui, la maximale sera de 22 pour Perpignan. Il fera seulement 8 degrés à Épinal pour la minimale, 9 à Boulogne-sur-Mer, 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, 15 à Brest, 16 à Biarritz et 20 à Toulon. Pour le ciel, pas beaucoup d'évolution. Le soleil brille toujours à l'ouest sur une bande centrale. Également, les éclaircies se font belles et les averses présentes à l'est deviennent orageuses avec de la grêle qui touchera l'extrême sud-est des Alpes-Maritimes à la Corse et le Mistral qui se lève dès la vallée du Rhône jusqu'à 100 km/h en rafale.
Pas de grand changement pour la journée de demain.
Et non, la fraîcheur persistera avec des températures très nettement en dessous des normales de saison, 0 à 4 degrés attendus demain matin et localement de petites gelées blanches, notamment sur le centre et le nord-est du pays. Demain, la journée sera encore bien ensoleillée dans l'ouest et le sud avec l'instabilité qui persiste à l'est. Le vent, lui, sera encore bien présent dans le sud-est. Mistral et Tramontane souffleront en rafale de 70 à localement 90 km/h.
La météo de Camille Esnou, merci.